Propos sur le bonheur par Alain. Enregistré par Christiane Johan. Article 26. Hercule. L'homme n'a de ressources que dans sa propre volonté. Idée aussi ancienne que les religions, les prodiges et les malheurs. En revanche, idée qui, par sa nature, est vaincue en même temps que la volonté elle-même, car la force d'âme se prouve par les effets. Hercule se donnait à lui-même ce genre de preuve jusqu'au jour où il se crut esclave. Il préféra alors une mort éclatante à une misérable vie. Ce mythe est le plus beau. Je voudrais que l'on fît réciter aux enfants les œuvres d'Hercule, afin qu'ils apprissent à surmonter les forces extérieures. Car cela même c'est vivre. Et l'autre partie, le lâche parti, n'est que le parti de mourir longtemps. J'aime un garçon qui réfléchit en surmontant et qui, au tournant mal pris, dit d'abord « c'est ma faute » et cherche sa propre faute et se bourre cordialement les côtes. Mais que faire de l'automate à forme humaine qui cherche toujours excuse dans les choses et les gens autour? Il n'y a point de joie par là, car il est trop clair que les choses et gens autour n'ont point égard aux malheureux. Aussi ses pensées suivent le vent, comme les feuilles en cette dure saison. J'admire ceci que ceux qui cherchent excuse hors d'eux ne sont jamais contents, au lieu que ceux qui vont droit à leur propre faute et disent « je fus bien sot » se trouvent forts et joyeux de cette expérience qu'ils ont digérée. Il y a deux expériences, l'une qui alourdit et l'autre qui allège. Comme il y a le chasseur gai et le chasseur triste. Le chasseur triste manque le lièvre et dit « voilà bien ma chance » et bientôt ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Le chasseur gai admire la ruse du lièvre, car il sait bien qu'il n'est pas dans la vocation du lièvre de courir à la casserole. Les proverbes sont pleins de cette virile sagesse. Il y a bien de la profondeur dans ce que ma grand-mère disait des alouettes, qui ne tombent point tout rôties. Comme on fait son lit, on se couche. « Comme je voudrais aimer la musique, dit le sot, mais il faut faire la musique, elle n'est point. » Tout est contre nous, mais disons mieux, tout est indifférent et sans égard. La face de la terre est broussaille et pestilence, sans l'œuvre d'homme. Non point ennemi, mais non point favorable. Il n'y a que l'œuvre d'homme qui soit pour l'homme. Mais c'est l'espoir qui fait la crainte. C'est pourquoi c'est un très mauvais commencement si l'on réussit par hasard. Et qui bénit les dieux bientôt les maudira. Comme ces mariés qui aiment le maire de l'arrondissement et le suisse de l'église. Ils n'ont pas vu de quelle heure le bedeau éteint les cierges. J'ai remarqué un jour le sourire d'une marchande de parfumerie. Elle le ferma tout net comme elle fermait sa porte. Et c'est un beau spectacle aussi que de voir un marchand qui met ses volets. Dès que la chose étrangère, aussi bien un homme, nous découvre sa loi propre, selon laquelle il gravite, nous voilà notre travail d'homme. Mais dès qu'un être nous promet bienveillance, nous voilà privés de connaissances et sans autre ressource que d'espérer. Les êtres sont bien plus beaux et plus amis derrière leurs volets et en leur riche existence qu'en ces présages et reflets. J'ai remarqué que les hommes énergiques aiment les différences et variétés. La paix est entre les forces. 7 novembre 1922. Article 27. Vouloir. Les feuilles poussent. Bientôt la galéruque, qui est une vraie petite chenille verte, s'installera sur les feuilles de l'ormeau et les dévorera. L'arbre sera comme privé de ses poumons. Vous le verrez pour résister à l'asphyxie, pousser de nouvelles feuilles et vivre une seconde fois le printemps. Mais ses efforts l'épuiseront. Une année ou l'autre, vous verrez qu'il n'arrivera point à déplier ses nouvelles feuilles. Il mourra. Ainsi gémissait un ami des arbres, comme nous nous promenions dans son parc. Il me montrait des ormeaux centenaires et m'annonçait leur fin prochaine. Je lui dis, il faut lutter. Cette petite chenille est sans force. Si l'on en peut tuer une, on en peut tuer 100 et 1000. Qu'est-ce qu'un millier de chenilles? Répondit-il. Il y en a des millions. J'aime mieux n'y pas penser. Mais, lui dis-je, vous avez de l'argent. Avec de l'argent, on achète des journées de travail. 10 ouvriers travaillant 10 jours tueront plus d'un millier de chenilles. Ne sacrifieriez-vous pas quelques centaines de francs pour conserver ces beaux arbres? J'en ai trop, dit-il, et j'ai trop peu d'ouvriers. Comment atteindront-ils les hautes branches? Il faudrait des émondeurs. Je n'en connais que deux dans le pays. Deux, lui dis-je, c'est déjà quelque chose. Ils s'occuperont des hautes branches. D'autres moins habiles se serviront d'échelles. Et si vous ne sauvez pas tous vos arbres, vous en sauverez du moins deux ou trois. Le courage me manque, dit-il enfin. Je sais ce que je ferai. Je m'en irai pendant quelque temps pour ne pas voir cette invasion de chenilles. Ô puissance de l'imagination, lui répondis-je, vous voilà en déroute avant d'avoir combattu. Ne regardez pas au-delà de vos mains. On n'agirait jamais si l'on considérait le poids immense des choses et la faiblesse de l'homme. C'est pourquoi il faut agir et penser son action. Voyez ce maçon. Il tourne tranquillement sa manivelle. C'est à peine si la grosse pierre remue. Pourtant la maison sera achevée et des enfants gambaderont dans les escaliers. J'ai admiré une fois un ouvrier qui s'installait avec son vilebrequin pour percer une muraille d'acier qui avait bien 15 centimètres d'épaisseur. Il tournait son outil en sifflant. Les fins copeaux d'acier tombaient comme une neige. L'audace de cet homme me saisit. Il y a 10 ans de cela. Soyez sûr qu'il a percé ce trou-là et bien d'autres. Les chenilles elles-mêmes vous font la leçon. Qu'est-ce qu'une chenille auprès d'un ormeau? Mais tous ces menus coups de dents dévoreront une forêt. Il faut avoir foi dans les petits efforts et lutter en insecte contre l'insecte. Mille causes travaillent pour vous, sans quoi il n'y aurait point d'ormeau. La destinée est instable. Une chiquenaude crée un monde nouveau. Le plus petit effort entraîne des suites sans fin. Celui qui a planté ses ormes n'a pas délibéré sur la brièveté de la vie. Jetez-vous comme lui dans l'action sans regarder plus loin que vos pieds et vous sauverez vos ormeaux. 9 mai 1909. Article 28. Chacun a ce qu'il veut. Chacun a ce qu'il veut. La jeunesse se trompe là-dessus parce qu'elle ne sait bien que désirer et attendre la manne. Or, il ne tombe point de manne. Et toutes les choses désirées sont comme la montagne qui attend que l'on ne peut manquer. Mais aussi il faut grimper. Tous les ambitieux que j'ai vus partir d'un pied sûr, je les ai vus aussi arriver, et même plus vite que je n'aurais cru. Il est vrai qu'ils n'ont jamais différé une démarche utile, ni manqué de voir régulièrement ceux dont ils pensaient se servir, ni aussi de négliger ces inutiles qui ne sont qu'agréables. Enfin, ils ont flatté quand il fallait. Je ne blâme point, c'est affaire de goût. Seulement, si vous vous mêlez de dire des vérités désagréables à l'homme qui peut vous ouvrir les chemins, ne dites point que vous vouliez passer. Vous rêviez que vous passiez comme on rêve quelquefois qu'on est oiseau. C'est comme si vous rêviez d'être ministre sans l'ennui des audiences et sans rien ménager. J'ai connu un bon nombre de ces paresseux qui disent « On me viendra chercher, je ne remuerai pas un doigt ». C'est qu'ils veulent dans le fond qu'on les laisse tranquilles, et on les laisse. Aussi ne sont-ils pas aussi malheureux qu'ils voudraient le croire. Les niais sont ceux qui font soudain 10 démarches en 2 jours, visant tout d'un coup une riche proie comme le Milan. Il n'y a rien à espérer de ces expéditions très mal préparées. J'ai vu des hommes de mérite attaquer ainsi des coffres-forts avec leurs ongles. D'où l'on dit quelquefois que la société est bien injuste. En quoi l'on est bien injuste? La société ne donne rien à celui qui ne demande rien. J'entends avec constance et suite. Et cela n'est point mal, car les connaissances et aptitudes d'esprit ne sont pas le tout. Telles entendraient la politique, mais qui font voir pourtant, pour ne rien rechercher, que la crasse du métier, tous les métiers en ont, ne leur plaît guère. Et qu'importe alors qu'ils aient science et jugement, s'ils n'aiment pas le métier. Barrès recevait, apostillait, se souvenait. Je ne sais s'il était propre à la grande politique, mais certainement il aimait le métier. Je reviens à dire que tous ceux qui veulent s'enrichir y arrivent. Cela scandalise tous ceux qui ont rêvé d'avoir de l'argent et qui n'en ont point. Ils ont regardé la montagne, mais elle les attendait. L'argent, comme tout avantage, veut d'abord fidélité. Beaucoup imaginent qu'ils veulent gagner simplement parce qu'ils ont besoin de gagner. Mais l'argent s'écarte de ceux qui le recherchent seulement par le besoin. Ceux qui ont fait leur fortune ont pensé à gagner sur chaque chose. Mais celui qui cherche un joli commerce, où l'on se plairait comme en amitié, où l'on suivrait son goût et sa fantaisie, où l'on serait facile et même généreux, cela s'évapore comme la pluie sur le pavé chaud. Il faut rigueur, il faut courage. Enfin, faire ses preuves dans la difficulté comme les anciens chevaliers. Le mercure ne s'unit pas plus vite alors que le bénéfice à celui qui fait ses comptes chaque jour et à chaque heure. Mais l'amant frivole est jugé. Qui veut dépenser ne gagnera point. Justice, car ce qu'il veut, c'est dépenser, et non gagner. J'ai connu un amateur d'agriculture, qui semait pour son bon plaisir, et par hygiène en quelque sorte. Il ne souhaitait que de ne point perdre, mais cet équilibre ne se trouve jamais, il se ruina très bien. Il y a une avarice des vieillards, et même mendiants, qui est manie. Mais l'avarice du marchand tient au métier même. Dès que l'on veut gagner, il faut vouloir les moyens, c'est-à-dire faire des sommes de petits profits. Ou bien c'est grimper sans regarder à chaque pas que l'on fait. Or, toute pierre n'est pas bonne, et la pesanteur ne nous lâche jamais. Ruine est un beau mot, car la perte est accrochée au marchand et le tire toujours. Qui ne sent pas cet autre genre de pesanteur perd sa peine. 21 septembre 1924. Article 29. De la destinée. La destinée, disait Voltaire, nous mène et se moque de nous. Ce mot m'étonne de cet homme-là qui fut si bien lui-même. Le destin extérieur agit par des moyens violents. Il est clair que la pierre ou l'obus écrasera un Descartes aussi bien. Ses forces peuvent nous effacer tous de la terre en un moment. Mais l'événement qui tue si aisément un homme n'arrive pas à le changer. J'admire comme les individus vont à leur fin, et comme ils font occasion de tout, comme un chien de la poule qu'il mange fait de la viande de chien et de la graisse de chien, ainsi l'individu digère l'événement. Cette constance à vouloir, qui est propre aux natures fortes, finit toujours par trouver passage dans le changement de toutes choses où il y a de tout. Le propre de l'homme fort est de marquer toutes choses de son sceau. Mais cette force est plus commune que l'on ne croit. Tout est vêtement pour l'homme, et les plis suivent la forme et le geste. Une table, un bureau, une chambre, une maison sont promptement rangées ou dérangées selon la main. Les affaires suivent, grandes ou petites, et nous disons qu'elles sont heureuses ou malheureuses, selon un jugement extérieur. Mais l'homme qui les conduit bien ou mal fait toujours son trou selon sa forme, comme le rat. Regardez bien, il a fait ce qu'il a voulu. Ce que jeunesse désire, vieillesse l'a en abondance. C'est Goethe qui cite ce proverbe au commencement de ses mémoires. Et Goethe est un brillant exemple de ces natures qui façonnent tout événement selon leur propre formule. Tout homme n'est pas Goethe, il est vrai, mais tout homme est soi. L'empreinte n'est pas belle, soit, mais il la laisse partout. Ce qu'il veut n'est pas quelque chose de bien relevé, mais ce qu'il veut, il l'a. Cet homme, qui n'est point Goethe, aussi ne voulait point l'être. Spinoza, qui a saisi mieux que personne ses natures crocodiliennes, invincibles, dit que l'homme n'a pas besoin de la perfection du cheval. De même, aucun homme n'a usage de la perfection de Goethe. Mais le marchand, partout où il est, et aussi bien sur des ruines, le marchand vend et achète, l'escompteur prête, le poète chante, le paresseux dort. Beaucoup de gens se plaignent de n'avoir pas ceci ou cela, mais la cause en est toujours qu'ils ne l'ont point vraiment désiré. Ce colonel qui va planter ses choux aurait bien voulu être général. Mais si je pouvais chercher dans sa vie, j'apercevrais quelques petites choses qu'il fallait faire, et qu'il n'a point faites, qu'il n'a point voulu faire. Je lui prouverais qu'il ne voulait pas être général. Je vois des gens qui, avec assez de moyens, ne sont arrivés qu'à une maigre et petite place. Mais que voulaient-ils ? Leur franc-parler, ils l'ont. Ne point flatter, ils n'ont point flatté et ne flattent point. Pouvoir, par le jugement, par le conseil, par le refus, ils peuvent. Il n'a point d'argent, mais n'a-t-il pas toujours méprisé l'argent ? L'argent va à ceux qui l'honorent. Trouvez-moi seulement un homme qui ait voulu s'enrichir et qui ne l'ait point pu. Je dis qui ait voulu. Espérer n'est pas vouloir. Le poète espère 100 000 francs. Il ne sait ni de qui ni comment. Il ne fait pas le moindre petit mouvement vers ses 100 000 francs. Aussi ne les a-t-il point. Mais il veut faire de beaux vers. Aussi les fait-il. Beaux selon sa nature, comme le crocodile fait ses écailles et l'oiseau ses plumes. On peut appeler aussi destinée cette puissance intérieure qui finit par trouver passage. Mais il n'y a de commun que le nom entre cette vie si bien armée et composée et cette tuile de hasard qui tua Pyrrhus. ce que m'exprimait un sage, disant que la prédestination de Calvin ne ressemblait pas mal à la liberté elle-même. 3 octobre 1923. Article 30. Ne pas désespérer. Cette méthode de police qui consiste à guérir un ivrogne par le serment porte la marque de l'action. Un théoricien ne s'y serait point fié, car à ses yeux, les habitudes et les vices sont solidement définies et établies. Raisonnant d'après les sciences des choses, il veut que tout homme porte en lui ses manières d'agir, comme des propriétés, à la façon du fer ou du soufre. Mais je crois plutôt que les vertus et les vices, fort souvent, ne tiennent pas plus à notre nature qu'il ne tient à la nature du fer d'être martelé ou laminé, ou à la nature du soufre d'être en poudre ou en canon. Dans le cas de l'ivrogne, j'en vois bien la raison. C'est l'usage ici qui fait le besoin, car boire ce qu'il boit donne soif et enlève la raison. Mais la première cause de boire est bien faible. Un serment peut l'annuler. Et à partir de ce petit effort de pensée, voilà notre homme aussi sobre que s'il n'avait bu que de l'eau depuis 20 ans. Le contraire se voit aussi. Je suis sobre, mais je deviendrai aussitôt ivrogne et sans effort. J'ai aimé le jeu, les circonstances ayant changé, je n'y ai plus pensé. Si je m'y mettais, je l'aimerais encore. Il y a de l'entêtement dans les passions, et peut-être surtout une erreur démesurée. Nous nous croyons pris. Ceux qui n'aiment pas le fromage n'en veulent point goûter, parce qu'ils croient qu'ils ne l'aimeront point. Souvent un célibataire croit que le mariage lui serait insupportable. Un désespoir porte malheureusement avec lui une certitude, disons une forte affirmation, qui fait que l'on repousse l'adoucissement. Cette illusion, car je crois que c'en est une, est bien naturelle. On juge mal de ce qu'on n'a point. Tant que je bois, je ne puis concevoir la sobriété. Je la repousse par mes actes. Dès que je ne bois plus, je repousse par cela seul l'ivrognerie. Il en est de même pour la tristesse, pour le jeu, pour tout. Aux approches d'un déménagement, vous dites adieu à ces murs que vous allez quitter. Votre mobilier n'est pas dans la rue que vous aimez déjà l'autre logement. Le vieux logement est oublié. Tout est bientôt oublié. Le présent a sa force et sa jeunesse, toujours. Et l'on s'y accommode d'un mouvement sûr. Chacun a éprouvé cela, et personne ne le croit. L'habitude est une sorte d'idole qui a pouvoir par notre obéissance. Et c'est la pensée ici qui nous trompe, car ce qui nous est impossible à penser nous semble aussi impossible à faire. L'imagination mène le monde des hommes par ceci qu'elle ne peut s'affranchir de coutumes. Il faudrait dire que l'imagination ne s'est pas inventée, mais c'est l'action qui invente. Mon grand-père, vers ses 70 ans, prit le dégoût des aliments solides et vécut de lait pendant 5 ans au moins. On disait que c'était une manie, on disait bien. Je le vis un jour, à un déjeuner de famille, attaquer soudainement une cuisse de poulet. Et il vécut encore 6 ou 7 ans, mangeant comme vous et moi. Acte de courage, certes, mais que bravait-il ? L'opinion, ou plutôt l'opinion qu'il avait de l'opinion. Et aussi l'opinion qu'il avait de soi. Heureuse nature, dira-t-on. Non pas. Tous sont ainsi, mais ils ne le savent pas. Et chacun suit son personnage. 24 août 1912. Article 31. Dans la grande prairie. Platon a des contes de nourrice qui ressemblent, en somme, à tous les contes de nourrice, mais qui, par certains petits mots jetés comme en passant, retentissent au fond de nous-mêmes et éclaire subitement des recoins mal connus. Tel est ce récit d'un certain E.R. qui avait été pris pour mort après une bataille, puis revint des enfers une fois que l'erreur fut reconnue et raconta ce qu'il avait vu là-bas. Voici quelle était l'épreuve la plus redoutable. Les âmes, ou ombres, ou comme on voudra, sont conduites dans une grande prairie, et on leur jette devant elles des sacs, où sont des destinées à choisir. Ces âmes ont encore le souvenir de leur vie passée. Elles choisissent d'après leurs désirs et leurs regrets. Ceux qui ont désiré l'argent plus que toute chose choisissent une destinée remplie d'argent. Ceux qui en ont eu beaucoup en cherchent davantage encore. Les voluptueux cherchent des sacs pleins de plaisirs. Les ambitieux cherchent une destinée de roi. Pour finir, chacun trouve ce qu'il lui faut et ils s'en vont avec leur nouveau destin sur l'épaule boire l'eau du fleuve l'été, ce qui veut dire le fleuve oubli, et partent de nouveau pour la terre des hommes afin de vivre selon leur choix. Voilà une singulière épreuve et une étrange punition, qui est pourtant plus redoutable qu'elle n'en a l'air, car il se trouve peu d'hommes qui réfléchissent sur les véritables causes du bonheur et du malheur. Cela remonte jusqu'à la source, c'est-à-dire jusqu'au désir tyrannique, qui met la raison en échec. Cela se défie des richesses, parce qu'elles rendent sensibles aux flatteries et sourds aux malheureux. Il se défie de la puissance, parce qu'elle rend injuste, plus ou moins, tous ceux qui en ont. Il se défie des plaisirs, parce qu'ils obscurcissent et éteignent enfin la lumière de l'intelligence. Ces sages-là vont donc retourner prudemment plus d'un sac de belle apparence, toujours soucieux de ne point perdre leur équilibre et de ne point risquer dans une brillante destinée le peu de sens droit qu'ils ont conquis et conservé avec tant de peine. Ceux-là emporteront sur leur dos quelques destinées obscures dont personne ne voudrait. Mais les autres qui ont galopé toute leur vie après leurs désirs, se régalant de ce qui leur semblait bon, sans regarder plus loin que l'écuelle, ceux-là, que voulez-vous qu'ils choisissent, sinon encore plus d'aveuglement, encore plus d'ignorance, encore plus de mensonges et d'injustices? Et ainsi, ils se punissent eux-mêmes, plus durement qu'aucun juge ne les punirait. Ce millionnaire est maintenant dans la grande prairie, peut-être, et que va-t-il choisir? Mais laissons les métaphores. Platon est toujours bien plus près de nous que nous ne croyons. Je n'ai aucune expérience d'une vie nouvelle qui suivrait la mort. C'est donc trop peu de dire que je n'y crois pas. Je n'en puis rien penser du tout. Je dirais plutôt que la vie future, où nous sommes punis selon notre propre choix, et même selon notre propre loi, c'est cet avenir même où nous glissons sans arrêt, et où chacun développe le paquet qu'il a choisi. Et il est très vrai aussi qu'au fleuve oubli, nous ne cessons de boire, accusant les dieux et le destin. Celui qui a choisi ambition n'a pas cru choisir basse flatterie, envie, injustice, mais c'était dans le paquet. 5 juin 1909. Article 32. Passion de voisinage. Comme on vit mal, dit l'un, avec ceux que l'on connaît trop. On gémit sur soi-même sans retenue, et l'on grossit par là de petites misères. Eux de même, on se plaint aisément de leurs actes, de leurs paroles, de leurs sentiments, on laisse éclater les passions, on se permet des colères pour de faibles motifs, on est trop sûr de l'attention, de l'affection et du pardon. On s'est trop bien fait connaître pour se montrer en beau. Cette franchise de tous les instants n'est pas véridique, elle grossit tout. De là une aigreur de ton et une vivacité de gestes qui étonnent dans les familles les plus unies. La politesse et les cérémonies sont plus utiles qu'on ne croit. Comme on vit mal, dit l'autre, avec ceux que l'on ne connaît pas du tout. Il y a des mineurs sous la terre qui piochent pour un rentier. Il y a des confectionneuses en chambre qui s'épuisent pour les coquettes acheteuses d'un grand magasin. Il y a des malheureux en ce moment qui ajustent et collent des jouets par centaines et à vil prix pour le plaisir des enfants riches. Ni les enfants riches, ni les élégantes, ni les rentiers ne pensent à tout cela. Or tous ont pitié d'un chien perdu ou d'un cheval fourbu. Ils sont polis et bons avec leurs domestiques et ne supportent pas de leur voir les yeux rouges ou l'air boudeur. On paie très bien un pourboire, et sans hypocrisie, parce qu'on voit la joie du garçon de café, du commissionnaire, du cocher. Le même homme, qui paie largement un porteur de mal, affirme que les cheminots peuvent vivre sans se priver, avec ce que la compagnie leur donne. Chacun, à toute minute, tue le mandarin. Et la société est une merveilleuse machine qui permet aux bonnes gens d'être cruelles sans le savoir. Comme on vit bien, dit un troisième, avec ceux qu'on ne connaît pas trop. Chacun retient ses paroles et ses gestes, et par cela même ses colères. La bonne humeur est sur les visages et bientôt dans les cœurs. Ce que l'on regretterait d'avoir dit, on ne pense même pas à le dire. On se montre à son avantage devant un homme qui ne vous connaît guère, et cet effort nous rend souvent plus justes pour les autres et pour nous-mêmes. On n'attend rien d'un inconnu, on est tout content du peu qu'il donne. J'ai observé que les étrangers sont aimables, parce qu'ils ne savent dire que des politesses, sans pointe. De là vient que quelques-uns se plaisent en pays étrangers. Ils n'ont point occasion d'y être méchants, et ils y sont plus contents d'eux-mêmes. En dehors même des conversations, quelle amitié, quelle société facile sur ce trottoir! Un vieillard, un enfant, même un chien, y circulent à l'aise. Au contraire, dans la rue, les cochers s'injurient. Chacun est pressé par des voyageurs qui ne se voient point. Le mécanisme n'est pas compliqué, mais il grince déjà. La paix sociale résultera de rapports directs, de mélanges d'intérêts, d'échanges directs, non par organisations qui sont mécanismes, comme syndicats et corps constitués, mais au contraire par unités de voisinage, ni trop grandes, ni trop petites. Le fédéralisme par région est le vrai. 27 décembre 1910. Article 23. En famille. Il y a deux espèces d'hommes, ceux qui s'habituent au bruit, ceux qui s'habituent au bruit, et ceux qui essaient de faire taire les autres. J'en ai connu beaucoup qui, lorsqu'ils travaillent ou lorsqu'ils attendent le sommeil, entrent en fureur pour une voix qui murmure ou pour une chaise un peu vivement remuée. J'en ai connu d'autres qui s'interdisent absolument de régler les actions d'autrui. Ils aimeraient mieux perdre une précieuse idée ou 2 heures de sommeil que d'arrêter les conversations, les rires et les chants du voisin. Ces deux espèces de gens fuient leur contraire et cherchent leurs semblables par le monde. C'est pourquoi on rencontre des familles qui diffèrent beaucoup les unes des autres par les règles et les maximes de la vie en commun. Il y a des familles où il est tacitement convenu que ce qui déplaît à l'un est interdit à tous les autres. L'un est gêné par le parfum des fleurs, l'autre par les éclats de voix, l'un exige le silence du soir et l'autre le silence du matin. Celui-ci ne veut pas qu'on touche à la religion, celui-là grince des dents dès que l'on parle politique. Tous se reconnaissent les uns aux autres un droit de veto. Tous exercent ce droit avec majesté. L'un dit « J'aurai la migraine toute la journée à cause de ces fleurs. » Et l'autre « Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit à cause de cette porte qui a été poussée un peu trop vivement vers 11 heures. » C'est à l'heure du repas, comme à une sorte de parlement, que chacun fait ses doléances. Tous connaissent bientôt cette charte compliquée, et l'éducation n'a pas d'autre objet que de l'apprendre aux enfants. Finalement, tous sont immobiles et se regardent et disent des pauvretés. Cela fait une paix morne et un bonheur ennuyé. Seulement, comme tout compte fait, chacun est plus gêné par tous les autres qu'il ne les gêne, tous se croient généreux et répètent avec conviction « Il ne faut pas vivre pour soi, il faut penser aux autres ». Il y a aussi d'autres familles où la fantaisie de chacun est chose sacrée, chose aimée, où nul ne songe jamais que sa joie puisse être importune aux autres. Mais ne parlons point de cela.
Ce sont des égoïstes.
12 juillet 1907. Article 34. Sollicitude. Tout le monde connaît la fameuse scène où tous, à force de dire à Basile « Vous êtes pâle à faire peur », finissent par lui faire croire qu'il est malade. Cette scène me revient à l'esprit toutes les fois que je me trouve au milieu d'une famille étroitement unie, où chacun surveille la santé des autres. Malheur à celui qui est un peu pâle ou un peu rouge. Toute la famille l'interroge avec un commencement d'anxiété. « Tu as bien dormi ? Qu'as-tu mangé hier ? Tu travailles trop ?» et autres propos réconfortants. Viennent ensuite des récits de maladies qui n'ont pas été prises assez tôt. Je plains l'homme sensible et un peu poltron qui est aimé, choyé, couvé, soigné de cette manière-là. Les petites misères de chaque jour, coliques, toux, éternuements, bâillements, névralgies, seront bientôt pour lui d'effroyables symptômes dont il suivra le progrès avec l'aide de sa famille et sous l'œil indifférent du médecin qui ne va pas, vous pensez bien, s'obstiner à rassurer tous ces gens-là au risque de passer pour un âne. Dès que l'on a un souci, on perd le sommeil. Voilà donc notre malade imaginaire qui passe des nuits à écouter sa respiration et ses journées à raconter ses nuits. Bientôt son mal est classé et connu de tous. Les conversations mourantes en reçoivent une vie nouvelle. La santé de ce malheureux a une cote, comme les valeurs en bourse. Tantôt il est en hausse, tantôt il est en baisse, et il le sait ou le devine. Voilà un neurasthénique de plus. Le remède ? Fuir sa famille. Allez vivre au milieu d'indifférents qui vous demanderont d'un air distrait « Comment vous portez-vous » mais s'enfuiront si vous répondez sérieusement. De gens qui n'écouteront pas vos plaintes et ne poseront pas sur vous ce regard chargé de tendres sollicitudes qui vous étranglait l'estomac. Dans ces conditions, si vous ne tombez pas tout de suite dans le désespoir, vous guérirez. Morale, ne dites jamais à quelqu'un qu'il a mauvaise mine. 30 mai 1907. Article 35. La paix du ménage. Je reviens à ce terrible poil de carotte de Jules Renard. Ce livre est sans indulgence,
et il est bon de dire là-dessus
que le mauvais côté des choses n'est pas difficile à apercevoir. Communément, ce sont les passions qui se montrent et c'est l'amitié qui se cache. Et c'est d'autant plus inévitable que l'intimité est plus grande. Un homme qui ne comprend pas cela est nécessairement malheureux. Dans la famille, et surtout si les cœurs sont tout à fait dévoués, personne ne se gêne, personne ne prend un masque. Ainsi, une mère, aux yeux de son enfant, ne pensera jamais à lui prouver qu'elle est une bonne mère, ou alors c'est que l'enfant est méchant jusqu'à la férocité. Un bon enfant doit donc s'attendre à être traité quelquefois sans façon. C'est là proprement sa récompense. La politesse est pour les indifférents, et l'humeur bonne ou mauvaise est pour ceux que l'on aime bien. Un des effets de l'amour partagé, c'est que la mauvaise humeur y est échangée naïvement. Le sage y verra des preuves de confiance et d'abandon. Les romanciers ont souvent noté que la première marque de l'infidélité de la femme, c'est un retour de politesse et d'attention à l'égard de son mari. Mais on a tort d'y voir un calcul, c'est que l'abandon n'y est plus. Et s'il me plaît à moi d'être battu, ce mot de théâtre grossit jusqu'au ridicule une vérité du cœur. Battre, injurier, incriminer, c'est toujours premier mouvement. Par cet excès de confiance, la famille peut périr, j'entends par là devenir un milieu détestable, où les voix prennent d'elles-mêmes l'accent de la plus vive colère. Et cela se comprend bien. Dans cette intimité de tous les jours, la colère de l'un nourrit la colère de l'autre, et les moindres passions s'y multiplient. Il est donc trop facile de décrire toutes ces humeurs âcres, et si seulement on les expliquait, le remède se trouverait à côté du mal. Tout naïvement, chacun dit d'un être grognon ou hargneux qu'il connaît bien, c'est son caractère. Mais je ne crois pas trop au caractère, car selon l'expérience, ce qui est régulièrement comprimé perd de son importance au point d'être négligeable. En présence du roi, la mauvaise humeur d'un courtisan n'est pas dissimulée. Elle est abolie par le vif désir de plaire. Un mouvement exclut l'autre. Si vous tendez amicalement la main, cela exclut le coup de poing. Il en est ainsi des sentiments qui tirent toute leur vivacité des gestes commencés et retenus. Une femme qui a du monde et qui interrompt sa colère pour recevoir une visite imprévue, cela ne me fait point dire « quelle hypocrisie !» mais « quel remède parfait contre la colère !» L'ordre familial, c'est comme l'ordre du droit. Il ne se fait point tout seul. Il se fait et se conserve par volonté. Celui qui a bien compris tout le danger du premier mouvement règle alors ses gestes et conserve ainsi les sentiments auxquels il tient. C'est pourquoi le mariage doit être indissoluble au regard de la volonté. Par là, on s'engage, soi-même, à le conserver bon, en calmant les tempêtes. Voilà l'utilité des serments. 14 octobre 1913. Article 36. De la vie privée. C'est la Bruyère, je crois, qui a dit qu'il y a de bons mariages, mais qu'il n'y en a point d'excellents. Il faudra que notre humanité se tire de ces marécages des faux moralistes, d'après lesquels on goûterait et on prononcerait sur le bonheur comme d'un fruit. Mais je dis que même pour un fruit, on peut l'aider à être bon. Encore bien mieux pour le mariage et pour toute liaison humaine. Ces choses ne sont pas pour être goûtées ou subies, mais il faut les faire. Une société n'est pas comme un ombrage, où l'on est bien ou mal selon le temps et les courants d'air. C'est au contraire le lieu des miracles, où le sorcier fait la pluie et le beau temps. Chacun fait beaucoup pour son commerce et pour sa carrière. Mais communément, on ne fait rien pour être heureux chez soi. J'ai déjà bien écrit sur la politesse, certainement sans la louer comme il fallait, et je ne dis point du tout que la politesse est un mensonge, bonne pour l'étranger. Je dis que plus les sentiments sont sincères et précieux, plus ils ont besoin de politesse. Un commerçant qui dirait « allez au diable » croirait dire ce qu'il pense. Mais voilà le piège des passions. Dans notre vie immédiate, tout ce qui se présente est faux. J'ouvre les yeux au réveil, tout ce que je vois est faux. Mon travail est de juger, d'estimer et de renvoyer les choses à leur distance. N'importe quelle première vue est un songe d'un instant, et les songes sont sans doute de courts réveils sans jugement. Eh bien, pourquoi voulez-vous que je juge mieux de mes sentiments immédiats ? Hegel dit que l'âme immédiate, ou naturelle, est toujours enveloppée de mélancolie et comme accablée. Cela m'a paru d'une belle profondeur. Lorsque la réflexion sur soi ne redresse pas, c'est un mauvais jeu. Et qui s'interroge se répond toujours mal. La pensée qui se contemple seulement n'est qu'ennui, ou tristesse, ou inquiétude, ou impatience. Essayez, demandez-vous à vous-même, que lirai-je bien pour passer le temps ? Vous bâillez déjà. Il faut s'y mettre. Le désir retombe s'il ne s'achève en volonté. Et ces remarques suffisent pour juger les psychologues qui voudraient que chacun étudie curieusement ses propres pensées, comme on fait des herbes ou des coquillages. Mais penser, c'est vouloir. Or, ce qui se fait si bien dans la vie publique, commerce, industrie, où chacun se gouverne et se redresse à chaque instant, ne réussit pas de même dans la vie privée. Chacun se couche sur ses affections, bon pour dormir, mais dans le demi-sommeil de la famille, tout est facilement aigre, par quoi les meilleurs sont souvent conduits à une hypocrisie effrayante. Chose à remarquer, on emploie une espèce de volonté à cacher des sentiments au lieu de les changer par volonté en se mouvant tout comme un gymnaste. Cette idée que la mauvaise humeur, la tristesse, l'ennui sont des faits comme la pluie ou le vent est en effet la première idée et fausse. Et bref, la vraie politesse consiste à éprouver ce que l'on doit. On s'oblige bien au respect, à la discrétion, à la justice. Ce dernier exemple est bon à considérer. Un retour vif à la justice, malgré le premier mouvement des passions, n'est certes pas d'un voleur, mais bien plutôt c'est la probité elle-même, sans aucune hypocrisie. Pourquoi veut-on qu'il n'en soit pas autant de l'amour ? L'amour n'est pas naturel, et le désir lui-même ne l'est pas longtemps. Mais les sentiments vrais sont des œuvres. On ne joue pas aux cartes pour les jeter au premier mouvement d'impatience ou d'ennui, et personne n'a jamais eu l'idée de jouer au hasard sur un piano. La musique est même, de tous les exemples, le meilleur, car elle ne se soutient, même dans le chant, que par volonté. Et la grâce vient ensuite, comme on dit quelquefois les théologiens, mais sans bien savoir de quoi ils parlaient. 10 septembre 1913. Article 37. Le couple. Romain Rolland, dans son beau livre, fait entendre qu'un bon ménage est rare et par des causes naturelles. En suivant les mêmes chemins, en considérant ces personnages, et surtout les personnages vivants qui se sont trouvés dans mon chemin, j'aperçois des traits distinctifs qui rendent souvent les deux sexes ennemis l'un de l'autre, sans qu'ils sachent toujours bien pourquoi. L'un est affectif, l'autre actif. Cela a été dit souvent et rarement expliqué. Affectif n'est pas la même chose qu'affectueux. Ce qu'il faut entendre sous le mot, c'est une liaison plus étroite des pensées avec les sources de la vie. Cette liaison s'observe chez tous les malades, quel que soit le sexe, mais elle est normalement plus étroite chez la femme par la prédominance naturelle des fonctions de grossesse et d'allaitement et de tout ce qui s'y rattache. D'où des changements d'humeur dont les causes sont naturelles, mais dont les effets donnent souvent l'apparence de la fantaisie, de l'incohérence, de l'obstination. Sans aucune hypocrisie, car il faut une profonde sagesse, et fort rare dans le fait, pour expliquer un mouvement d'humeur par ses véritables causes, attendu que la vraie cause change aussi nos motifs. Si une fatigue à peine sentie m'enlève le goût de la promenade, elle me fait trouver aussi des raisons de rester chez moi. On entend souvent, sous le nom de pudeur, une dissimulation de vraies causes. Je crois que c'est plutôt une ignorance des vraies causes, et comme une transposition naturelle et presque inévitable des choses du corps en langage d'âme. L'homme amoureux est comme stupide devant ces textes. L'autre sexe est incompréhensible dans l'inaction. Sa fonction propre, c'est de chasser, de construire, d'inventer, d'essayer. Hors de ses chemins, il s'ennuie, mais toujours sans s'en apercevoir. De là un mouvement perpétuel pour de petites occasions. Sa bonne volonté, en le dissimulant, l'aggrave. Il lui faut un aliment politique ou industriel. Il est commun que les femmes prennent aussi pour hypocrisie ce qui est un effet de nature. On peut voir des crises de ce genre analysées avec profondeur dans les mémoires de deux jeunes mariés de Balzac et surtout dans l'Anna Karénine de Tolstoï. Le remède à ces maux me paraît être dans la vie publique, qui agit de deux manières. D'abord par les relations de famille et d'amis qui établissent dans le ménage des relations de politesse absolument nécessaires pour dissimuler tous ces caprices du sentiment qui n'ont toujours que trop d'occasions de s'exprimer. Dissimuler, entendez bien. Ce qui n'est que mouvement d'humeur n'est même pas senti dès qu'on ne peut le montrer. C'est pourquoi, autant que l'on aime, la politesse est plus vraie que l'humeur. Et puis la vie publique occupe l'homme et le détourne de cette oisiveté de complaisance dans laquelle il n'est jamais naturel quelque bon vouloir qu'il y mette. C'est pourquoi il y a toujours à craindre pour un ménage trop isolé et qui se nourrit d'amour seulement. Ce sont des barques trop légères, trop mobiles au flot, sans lest, et la sagesse par réflexion n'y peut pas grand-chose. C'est l'institution qui sauve le sentiment. 14 décembre 1912. Article 38. L'ennui. Quand un homme n'a plus rien à construire ou à détruire, il est très malheureux. Les femmes, j'entends celles qui sont occupées à chiffonner et à pouponner, ne comprendront sans doute jamais bien pourquoi les hommes vont au café et jouent aux cartes. Vivre avec soi et méditer sur soi, cela ne vaut rien. Dans l'admirable Wilhelm Meister de Goethe, il y a une société de renoncement dont les membres ne doivent jamais penser ni à l'avenir ni au passé. Cette règle, autant qu'on peut la suivre, est très bonne. Mais pour qu'on puisse la suivre, il faut que les mains et les yeux soient occupés. Percevoir et agir, voilà les vrais remèdes. Au contraire, si l'on tourne ses pouces, on tombera bientôt dans la crainte et dans le regret. La pensée est une espèce de jeu qui n'est pas toujours très sain. Communément, on tourne sans avancer. C'est pourquoi le grand Jean-Jacques a écrit « L'homme qui médite est un animal dépravé ». La nécessité nous tire de là presque toujours. Nous avons presque tous un métier à faire, et c'est très bon. Ce qui nous manque, ce sont de petits métiers qui nous reposent de l'autre. J'ai souvent envié les femmes parce qu'elles font du tricot ou de la broderie. Leurs yeux ont quelque chose de réel à suivre. Cela fait que les images du passé et de l'avenir n'apparaissent vivement que par éclairs. Mais dans ces réunions où l'on use le temps, les hommes n'ont rien à faire et bourdonnent comme des mouches dans une bouteille. Les heures d'insomnie, lorsqu'on n'est pas malade, ne sont si redoutées, je crois, que parce que l'imagination est alors trop libre et n'a point d'objet réel à considérer. Un homme se couche à 10 heures et jusqu'à minuit, il saute comme une carpe, en invoquant le dieu du sommeil. Le même homme, à la même heure, s'il était au théâtre, oublierait tout à fait sa propre existence. Ces réflexions aident à comprendre les occupations variées qui remplissent la vie des riches. Ils se donnent 1000 devoirs et 1000 travaux, et ils courent comme au feu. Ils font 10 visites par jour et vont du concert au théâtre. Ceux qui ont un sang plus vif se jettent dans la chasse, la guerre ou les voyages périlleux. D'autres roulent en auto et attendent impatiemment l'occasion de se rompre les os en aéroplane. Il leur faut des actions nouvelles et des perceptions nouvelles. Ils veulent vivre dans le monde et non en eux-mêmes. Comme les grands mastodontes broutaient des forêts, ils broutent le monde par les yeux. Les plus simples jouent à recevoir de grands coups de poing dans le nez et dans l'estomac. Cela les ramène aux choses présentes, et ils sont très heureux. Les guerres sont peut-être premièrement un remède à l'ennui. On expliquerait ainsi que ceux qui sont les plus disposés à accepter la guerre, sinon à la vouloir, sont souvent ceux qui ont le plus à perdre. La crainte de mourir est une pensée d'oisif, aussitôt effacée par une action pressante, si dangereuse qu'elle soit. Une bataille est sans doute une des circonstances où l'on pense le moins à la mort. D'où ce paradoxe, mieux on remplit sa vie, moins on craint de la perdre. 29 janvier 1909. Article 39. Vitesse. J'ai vu une des nouvelles locomotives de l'Ouest, plus longue encore, plus haute, plus simple que les autres. Les rouages en sont finis comme ceux d'une montre. Cela roule presque sans bruit. On sent que tous les efforts y sont utiles et tendent tous à une même fin. La vapeur ne s'en échappe point sans avoir usé sur les pistons toute l'énergie qu'elle a reçue du feu. J'imagine le démarrage aisé, la vitesse régulière, la pression agissant sans secousse et le lourd convoi glissant de 2 kilomètres en 1 minute. Au reste, le tender monumental en dit long sur le charbon qu'il faudra brûler. Voilà bien de la science, bien des plans, bien des essais, bien des coups de marteau et de lime. Tout cela pourquoi ? Pour gagner peut-être un quart d'heure sur la durée du voyage entre Paris et Le Havre. Et que feront-ils, les heureux voyageurs, de ce quart d'heure si chèrement acheté ? Beaucoup l'useront sur le quai à attendre l'heure. D'autres resteront un quart d'heure de plus au café et liront le journal jusqu'aux annonces. Où est le profit ? Pour qui est le profit ? Chose étrange, le voyageur qui s'ennuierait si le train allait moins vite emploiera un quart d'heure avant le départ ou après l'arrivée à expliquer que ce train met un quart d'heure de moins que les autres à faire le parcours. Tout homme perd au moins un quart d'heure par jour à tenir des propos de cette force ou à jouer aux cartes ou à rêver. Pourquoi ne perdrait-il pas aussi bien ce temps-là en wagon ? Nulle part on n'est mieux qu'en wagon. Je parle des trains rapides. On y est fort bien assis, mieux que dans n'importe quel fauteuil. Par de larges baies, on voit passer les fleuves, les vallées, les collines, les bourgades et les villes. L'œil suit les routes à flanc de coteau, des voitures sur ces routes, des trains de bateaux sur le fleuve. Toutes les richesses du pays s'étalent, tantôt des blés et des seigles, tantôt des champs de betteraves et une raffinerie, puis de belles futaies, puis des herbages, des bœufs, des chevaux. Les tranchées font voir les couches du terrain. Voilà un merveilleux album de géographie que vous feuilletez sans peine et qui change tous les jours, selon les saisons et selon le temps. On voit l'orage s'amasser derrière les collines et les voitures de foin se hâter le long des routes. Un autre jour, les moissonneurs travaillent dans une poussière dorée et l'air vibre au soleil. Quel spectacle égale celui-là ! Mais le voyageur lit son journal, essaie de s'intéresser à de mauvaises gravures, tire sa montre, bâille, ouvre sa valise, la referme. À peine arrivé, il hèle un fiacre et court comme si le feu était à sa maison. Dans la soirée, vous le retrouverez au théâtre. Il admirera des arbres en carton peint, des fausses moissons, un faux clocher. De faux moissonneurs lui brailleront aux oreilles et il dira, tout en frottant ses genoux meurtris par l'espèce de boîte où il est emprisonné, « Les moissonneurs chantent faux, mais le décor n'est pas laid. » 2 juillet 1908.
Fin de ce livre audio, Propos sur le bonheur, par Alain. Propos 26 à 39. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net.